Bonsoir. Le budget de l'État 2020 pourrait être réduit de près de la moitié si la mobilisation des recettes attendues ne se passe pas comme prévu. C'est ce que révèle le plan de trésorerie publié hier lundi par le ministère des Finances. Ce document du gouvernement rappelle que le budget 2020 a été voté en équilibre à 18 milliards 500 millions de francs congolais. Ce montant global est ramené selon le plan de trésorerie à 13 milliards 88 millions de francs congolais. Quelle analyse faire de ce plan de trésorerie? Quelles pourraient en être les conséquences sur l'exécution du budget 2020? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce mardi 18 février 2020. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat Mwindo Zangi. Il est député national et cadre du parti politique MS, membre de la coalition Lamuka. Il est membre de la commission économique et financière à l'Assemblée nationale. Monsieur Zangi, bonsoir.
Bonsoir.
Fabrice Ngabo, chercheur et consultant en fiscalité et finances. Monsieur Ngabo, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Le ministère des Finances a promis de nous envoyer un délégué. Nous l'attendons pour participer à l'émission. Vous êtes nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas d'Emmanuel Atsafo. Je pense que ce plan de trésorerie montre la réalité sur terrain, alors que le budget annuel n'est qu'une prévision. L'État congolais est maintenant devant une réalité. S'il tient à atteindre les 11 milliards de dollars, il doit doubler ses efforts. Michel King Sindani, c'est possible de ne pas réduire le budget si on met du sérieux dans la mobilisation des recettes. Ce pays a de l'argent, mais qui malheureusement va dans les poches des individus. Merci de nous suivre à Mbujima et dans la province du Kassai Oriental sur la 93.8. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiokapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez les 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiokapi.net.
Je l'ai dit, le budget de l'État 2020 pourrait être réduit de près de la moitié si la mobilisation des recettes attendues ne se passe pas comme prévu. C'est ce que révèle le plan de trésorerie publié hier par le ministère des Finances. De l'avis de certains experts, cela pourrait porter un coup fatal à la réalisation du programme social du gouvernement. Daniel Tombizoni a lu pour nous ce plan de trésorerie.
Pour obtenir ce plan de trésorerie, explique le ministère des Finances, il faut déduire du budget général les ressources extérieures sous forme de dons et des prêts, lesquels sont déjà préaffectés. Il faut aussi déduire des budgets annexes et les comptes spéciaux, lesquels relèvent de l'activité des entreprises et marchands du budget général. Ainsi, après la déduction de ces éléments, la loi des finances 2020, votée à un équilibre à 18 545,2 milliards de francs congolais, est ramenée à 13 869 milliards de francs congolais. Ce montant, selon le ministère des Finances, peut être considéré pour le plan de trésorerie comme le montant maximal en recettes et en dépenses pour 2020. Autre justification du ministère des Finances, ce plan de trésorerie résulte des tendances défavorables de la conjoncture actuelle marquée par les recettes estimées à 9 195,6 milliards de francs congolais contre les dépenses estimées à 9 545,6 milliards de francs congolais, soit un déficit de 350 milliards de francs congolais. Ce déficit peut être couvert par les banques commerciales en souscrivant aux bons du trésor émis par la Banque centrale du Congo, ceci pour éviter que le déficit soit comblé par un financement monétaire par la Banque centrale.
Merci Daniel Tamizoni. À propos du plan de trésorerie publié par le ministre des Finances hier lundi, son homologue du budget réagit. Jean-Baudouin Maillot parle d'une confusion et d'une mauvaise interprétation par certains qui pensent que le budget 2020 est réduit. Le ministre du budget, Jean-Baudouin Maillot, explique ce plan de trésorerie au téléphone de Grace Hamzati.
Le plan de trésorerie n'a pas vocation à se confondre nécessairement au budget. Le budget reste le budget, c'est le cadre légal. Tandis que le plan de trésorerie n'est qu'un instrument pour la gestion de ce budget-là. Vous savez que notre pays est en pré-programme avec le Fonds monétaire international. Il y a des critères de performance que nous devons atteindre, notamment le financement zéro de la Banque centrale. Donc nous ne devons vivre que sur la base caisse. La base recette réalisée. Sur le plan de recette, il y a des mois où il y en a beaucoup, il y a des mois où il y en a moins. Alors, pour ne pas tomber dans le piège de déficit, pour en appeler au financement de la Banque centrale, la prudence voudrait que nous ayons un plan de trésorerie. Nous sommes sommes en train de faire une prévision minimale de nos recettes dans le mois, dans la période, pour qu'on ne dépasse pas. N'oublie pas qu'il y a des dépenses contraignantes qui doivent être rencontrées systématiquement. Alors, le plan de trésorerie, ce n'est pas une minoration du budget. Le gouvernement n'a pas le pouvoir de réduire le budget car c'est une loi.
C'était la Jean-Baudouin Mayo, ministre du budget. Mouindo Zangui, vous êtes député national et cadre du parti politique MS, membre de la coalition Lamouka. Vous êtes également membre de la commission économique et financière à l'Assemblée nationale. Il y a une certaine confusion qui s'est créée par rapport à ce plan des trésoreries publié par le ministre des Finances hier lundi. On attend toujours le délégué, j'en profite pour dire qu'on attend toujours le délégué du ministère des Finances qui doit participer à cette émission pour venir éclairer l'opinion. On va commencer avec vous. Comment d'abord vous analysez-vous ce plan de trésorerie qui fait un peu la confusion? Certains parlent de réduction du budget, certains disent que ça pourrait aboutir à ça. Comment vous analysez cela?
D'abord, il faut le dire que le gouvernement est rattrapé par les maçons, les grands maçons dans lesquels ils ont plongé le pays. Lors du débat général sur le budget, moi j'avais pris parole et d'autres députés ont pris parole pour dire effectivement au gouvernement que il ne présentait pas des éléments quantifiables et des éléments qualitatifs qui montraient qu'il pouvait accroître les recettes de l'État de l'ordre pratiquement de 50%. Puisque déjà les réalisations de 2019 qui a été entièrement conduit par le nouveau régime, les réalisations étaient à dessein des prévisions de 2019. Ce qui fait qu'il n'y avait rien du tout qui expliquait cet accroissement du budget. Je crois que le ministre des Finances se retrouve au rond-point, à la croisée des chemins, et il s'est dit, est-ce qu'on doit continuer avec ce grand mensonge qui doit avoir des conséquences néfastes sur la vie économique du pays, ou alors il faut déjà faire une fuite en avant, à publier des vrais chiffres, les chiffres qui sont basés sur la réalité, pour conduire l'Assemblée nationale dans une démarche législative à pouvoir modifier le budget qui a été voté.
Dans ce processus-là, selon vous.
Je voudrais donc donner ce contexte-là en disant que le budget qui avait été voté, les 11 milliards qui ont été votés, c'était un budget irréaliste et on l'a dit, dans le contexte d'une corruption qui n'a pas changé de décret, dans le contexte où on n'a pas accru en fait le nombre de dans le contexte où on n'a pas mis une vraie lumière, une vraie réforme sur la collecte des recettes de l'État. On ne pouvait pas s'attendre à des résultats autres que ce qu'on avait. Alors, je vais venir maintenant à la définition des concepts. Le plan de trésorerie, c'est un document qui est établi par le ministère des Finances. En fait, c'est pratiquement les autres, dans d'autres écoles, on appelle ça les budgets de trésorerie. Celui qui gère la caisse, il vous dit, voilà, sur base des réalités que j'ai, voici les recettes que je vais réaliser chaque mois. Et les dépenses qui devront à suivre elles sont celles-ci. C'est un document qui permet en fait au ministère des Budgets et à tous les ministres qui prennent des engagements à ne pas aller au-delà du plan des recettes qui a été prévu du président. Alors, les ministres, en principe des coutumes, ce plan de trésorerie-là doit répondre effectivement aux exigences de la loi budgétaire qui a déjà prévu que pour chaque quantité, pour chaque mois, voici la fourchette des dépenses qui ne doivent pas être dépassées, la fourchette des recettes qu'on attend. Mais maintenant, là, ici, et dans les documents, le ministre précise directement que, voilà, sur base de ce plan de trésorerie, l'opinion doit considérer déjà que le budget de l'État qui avait été voté à 18 000 milliards est ramené à 13 000 milliards. Il le dit directement. Puisqu'à ce moment-là, les gens doivent comprendre que le plan de trésorerie, qui est la réalité de ce qui est réalisé sur le terrain, démontre qu'effectivement, ce qu'on a prévu, ça ne peut pas être réalisé. Voici ce que nous pouvons réaliser. Et sur base de ça, considérer que ce budget. Donc je crois que l'étape qui va suivre.
Est-ce qu'à ce stade, on peut dire que le budget de la RDC pourrait être réduit selon l'interprétation de certaines personnes après la publication de ce plan de trésorerie?
C'est inévitable. En fait, le ministre n'a pas commis de faute. C'est une étape. Il n'a pas réduit le budget. Mais il a donné des indications qui vont amener les gouvernements à pouvoir présenter, dès la session qui commence, et projet de loi rectificatif du budget qui est en cours, puisque c'est ça, ça va être ça la conséquence de ce qu'il a dit. Alors, il y a deux documents qui sont présentés pour la visualisation, notamment ce qu'on appelle les plans d'engagement du budget, qui est présenté par le ministère du budget, et les plans de trésorerie. Ce sont des documents qui se complètent et qui se présentent selon, puisque nous sommes ici dans une réalité de la gestion sur base 15. Et il faut qu'on l'explique calmement aux Congolais. En fait, notre gouvernement, compte tenu de notre histoire, les FMI avaient proposé au Congo, aux Zaïre à cette époque, que voilà, comme vous ne savez pas réaliser les budgets alors que vous avez prévu des dépenses par rapport à vos recettes, nous vous proposons de gérer comme quelqu'un gère sa maison. Je le dis de manière très claire, donc vous allez, comme les Congolais dans la conjoncture gèrent leur maison, c'est-à-dire que vous quittez votre maison, vous ne savez pas ce que vous allez avoir comme recette la journée, et si vous attrapez 5000 francs, vous programmez vos dépenses selon les 5000 francs que vous avez attrapés. Donc c'est ça la gestion sur base caisse, à l'expliquer de manière très...
Pour permettre à tout le monde de comprendre.
C'est-à-dire que notre gouvernement congolais, avant de payer les gens, les ministres des finances, pose la question à la banque centrale si les régies financières ont à fait encaisser combien à terme d'argent. Et c'est sur base de cette information-là qu'ils programment les dépenses. Donc cette gestion sur base caisse a fait nous programme d'être nous prédestine à être réaliste, à ne pas programmer des choses qu'on ne va pas réaliser.
On a suivi le ministre du budget qui demande aux gens, qui dit qu'il ne faut pas s'inquiéter par rapport à ça. C'est deux choses différentes, plan de trésorerie et le budget. C'est pas le gouvernement qui a le pouvoir de réduire le budget, c'est plutôt le Parlement.
Le ministre a raison de le dire, mais ce qu'il n'a pas le courage de dire, c'est qu'effectivement, nous vous avons promis un budget, nous ne sommes pas capables de le réaliser. Comprenez que nous allons déposer à l'Assemblée nationale un projet de budget rectificatif. C'est le courage que le ministre Mayo... Je comprends d'ailleurs dans sa voix qu'il a des difficultés de le dire clairement, mais c'est ça la réalité. Ils ont été confrontés à la réalité et nous l'avons dit. Comme les nouveaux venus n'avaient pas d'expérience, ils ont cru qu'à l'ISA 10 milliards, on va avoir les 10 milliards. Je me souviens d'ailleurs du débat qu'il y a eu au niveau du Conseil des ministres, où le Premier ministre avait insisté qu'il ne fallait pas avoir un budget de 10 milliards. Le président de la République a voulu effectivement qu'on puisse avoir un budget à deux chiffres, mais maintenant là, il est rattrapé par la réalité.
Merci Moindo Nzangi, Fabrice Ngabo, vous êtes chercheur et consultant en fiscalité et finances. Quelle est votre lecture à vous par rapport à ce plan de trésorerie publié par le ministre des Finances?
Merci beaucoup, madame, de la question. D'abord, je commence par vous remercier de l'invitation. Également, je salue les auditeurs, les nombreux auditeurs de Radio Okapi qui nous suivent maintenant et l'honorable Nzangi ici présent. Je crois qu'il faut d'abord rappeler les considérations générales par rapport à cette question. En fait, le budget, le plan de trésorerie n'est pas à confondre avec les budgets de l'État. Les budgets de l'État, c'est un acte légal. C'est le Parlement, l'autorité légale, l'autorité budgétaire qui vote le budget. Par contre, le plan de trésorerie, c'est un instrument ordinaire de gestion d'une entreprise. Les entreprises également, au jour le jour, n'est-ce pas, grâce au budget de trésorerie ou au plan de trésorerie, assurent la gestion de leurs entités. Également pour l'État aussi, comme d'autres agents économiques, peut élaborer un plan de trésorerie qui a pour objectif de faire le suivi de l'exécution du budget. Alors, le budget, il a un principe d'autorisation, c'est-à-dire, tel que le Parlement a voté ce budget, il doit être exécuté dans son esprit, la loi et dans sa lettre. Et donc, on ne peut pas concevoir que, on raconte que, le ministre des Finances, il va réduire les budgets, il n'en a pas le pouvoir, il n'en a pas la compétence. Et donc, le plan de trésorerie, c'est une affaire du gouvernement, n'est-ce pas, qui est l'exécutif, et le budget, c'est le fait du législateur. Alors, je crois que, déjà, nous avions dit que les budgets de 11 milliards pouvaient être réalisés. Le grand problème qui se pose aujourd'hui, c'est plutôt un problème de capacité de mobilisation de recettes. On n'a pas à se cacher derrière certaines réalités, le cadre macroéconomique morose. Vous allez vous rappeler, madame, qu'en 2014, pendant que la situation économique internationale était encore favorable, pendant que le gouvernement devait atteindre un taux de croissance à deux chiffres, le gouvernement avait prévu un budget de 9 milliards, mais il n'en avait réalisé qu'un budget de 6 milliards. Voyez-vous? Et donc, le problème, ce n'est pas l'environnement économique international comme on prétend le dire aujourd'hui. Le problème, c'est plutôt celui lié à la capacité de mobilisation. Alors, nous avions proposé, madame, des réformes fiscales structurelles qui devraient permettre au gouvernement de réaliser ces recettes-là. Encore que nous avions dit que le pays ne méritait pas 11 milliards. C'était peu. Il fallait aller au-delà. Mais parce que c'était ça qui a été voté, il fallait le réaliser. Alors, le problème...
Quelles sont ces réformes que vous avez proposées au gouvernement?
Justement, madame, quand on parle aujourd'hui de la lutte contre la corruption dans le système fiscal, de la lutte contre la fraude, l'évasion fiscale et la contrebande, c'est une affaire sérieuse. Il y a plusieurs études qui ont été menées, qui ont relevé que l'économie de notre pays est à 70% dans les secteurs informels. Et donc, c'est des questions importantes qui doivent être posées. Comment arriver à récupérer toutes les recettes fiscales, non fiscales, qui chôment, je vais dire comme ça, dans les secteurs informels pour les ramener dans les secteurs formels? Comment amener les régies financières à capter ces recettes qu'il y a dans ce secteur-là? Au-delà de ça, les réformes dont nous parlons, c'est celles qui doivent permettre d'agir sur la structure fiscale de notre économie. Je vous donne un cas. Vous allez à la Direction générale des impôts. Si vous consultez son rapport qui a été publié au mois de février 2019, vous allez réaliser que pour un pays de près de 100 millions d'habitants aujourd'hui, il n'y a pas de recensement, 100 millions d'habitants, on vous dit que le répertoire général des contribuables mis à jour en 2019 ne représente que 10 600 contribuables pour les moyennes et grandes entreprises. Et dans ce contexte, pensez-vous qu'un budget de 11 milliards peut être réalisé pendant que, au cours de l'exercice passé, les réalisations n'ont été que de 5 milliards quand vous prenez évidemment les recettes internes et les recettes externes. Et donc nous pensons que c'est une question de responsabilité et de volonté. Madame, en tant que nationaliste, notre groupe de chercheurs avait proposé au président de la République ces réformes depuis le 14 octobre 2019. Madame, non seulement que on n'a jamais répondu à cette proposition, mais nous étions là en train de constater comme tout le monde que, eh bien, dans le discours du chef de l'État, on a énoncé certains éléments irrelatifs sans que nous soyons impliqués. Et donc nous pensons que il est temps que tous reviennent à la responsabilité pour que l'on aide ces pays à avancer. 11 milliards de dollars, c'est réaliste. On n'a pas la peine de se cacher certaines.
Mais c'est la capacité de mobiliser les recettes qui reste faible.
Et c'est une question de volonté. Nous pensons que la mise en œuvre de certaines réformes fiscales structurelles, élaguer le seuil d'assujettissement de la TVA qui pose énormément de problèmes aujourd'hui, qui fait que il y a beaucoup de contribuables qui collectent la TVA qui ne reverse pas parce que simplement la loi a prévu que celui qui réalise les chiffres d'affaires inférieur à 80 millions de francs congolais n'y est pas assujetti. Donc il y a un certain nombre de réformes qui peuvent être menées et le gouvernement peut réaliser ses budgets si on a la capacité d'écoute et de faire ce que les autres pensent dans la bonne direction.
Merci monsieur Fabrice Ngabo, monsieur le député Mulindo Nzangi. Ce plan de trésorerie, est-ce que dans les gouvernements précédents il était publié? À ma connaissance, je ne pense pas, mais est-ce que peut-être que vous êtes au courant, hein, est-ce qu'il était publié dans les gouvernements précédents?
Il existait, puisque c'était
c'est
un instrument de gestion qui est prévu déjà par la LOFIP. Et c'est un instrument de gestion qui est utilisé partout au monde. C'est un instrument de gestion qui était toujours fait, mais peut-être jamais publié. C'est la nouveauté. Et je crois que l'actuel ministre des Finances
Est-ce que ça a été fait sciemment
Ou ils
voulaient juste se dédouaner pour dire voilà, on ne pourra pas mobiliser cet argent prévu pour le budget.
Ça aurait été intéressant si on était avec lui.
Malheureusement, nous attendons toujours. Le ministère a promis d'envoyer un délégué et nous attendons toujours ce délégué du ministère des Finances pour prendre part à cette émission.
Mais moi, comme politique, je vois effectivement que le gouvernement a des problèmes. Des réels problèmes politiques à l'interne. Vous savez qu'en dehors de cette question du plan de trésorerie que nous discutons aujourd'hui, il y a la question de l'exécution du programme des 100 jours, qui est un débat qui vient de s'écouler ici, dans lequel, effectivement, il a été clairement démontré qu'on a effectivement des courants à l'intérieur des mêmes gouvernements qui s'affrontent. Et des courants qui s'affrontent. Effectivement, on voit que le ministre des Finances revient à ce qu'il avait déjà dit avant même l'adoption de ce budget par les c'est que le Premier ministre défendait. Parce que le Premier ministre a refusé jusqu'au bout que le budget de 10 milliards ne pouvait pas être fait maintenant, qu'il pouvait être programmé pour 2021. Et je vois la même phrase, je la revois dans le texte qui a été publié par le ministre des Finances, qui dit effectivement, la somme des réformes que nous allons envisager cette année ici, ils pourront être en application à 2021. Peut-être que c'est à 2021 qu'on pourra arriver au budget de 10 milliards. C'est un peu pour vous dire qu'il y a des courants qui s'affrontent. Il y a un courant qui croit que voilà, si on met la barre à haut, on peut avoir la volonté d'y aller.
Sans réforme.
Ce qui n'est pas mauvais si le plan du principe, si le plan de la vision, pour dire voilà, mettons 10 milliards, nous savons que notre pays a beaucoup de richesses. En mettant les chiffres de 10 milliards, nous allons nous battre pour y arriver. Et il y a un autre courant qui dit écoutez, avec cette tendance-là, vous allez détruire l'économie et je crois qu'eux aussi, quelque part, ils ont raison. Pourquoi je le dis? Puisque, effectivement, même s'il a publié le plan de trésorerie à ce terme-là, ce budget, cette affaire-là va poser beaucoup de problèmes. Vous savez que nous avons accru les dépenses contraignantes. Avec pratiquement on a doublé les effectifs des personnels qui doivent être payés. Et donc, même si on revoit les ambitions à la baisse, nous avons déjà projeté des dépenses contraignantes sur base des prévisions de 10 milliards. Donc, nous allons nous retrouver aujourd'hui avec un budget qui va être exécuté dans l'esprit des recettes de 10 milliards, alors qu'on ne va réaliser que 5 milliards, selon ce que le ministre a dit. Et donc, on va marcher avec pratiquement des finances publiques déstructurées, avec toutes les conséquences qui vont suivre après.
Vous avez suivi Fabrice Ngabo qui dit que la RDC est capable de mobiliser cet argent. Mais le problème, c'est la capacité de mobilisation des réserves, des recettes qui pose problème.
Je suis
ce budget.
Je suis totalement d'accord avec lui. Je vais même au-delà de ce qu'il dit. Les 11 milliards, c'est réalisable. Je vais même aller au-delà. Cet argent-là est réalisé effectivement. Et donc, je vais au-delà de ce qu'il a dit là. Les 11 milliards, on les réalise. Mais ça va où? Cet argent est bouffé par des gens. En dehors de toutes ces choses qu'on peut appeler réformes qui viendront renforcer pour qu'on aille à 20 milliards ou même à plus, l'argent est réalisé. Mais comme il a dit là, il y a un système de consommation à la source de cet argent-là. Je parle bien des systèmes de consommation à la source. Aujourd'hui, vous payez 12 000 dollars pour votre conteneur à l'OFIDA. Mais posez la question, combien va au trésor? C'est moins de 4 000 dollars. Les 6 000 dollars restent là, on parlait de l'OGFREM, on parlait de l'OCC, on parlait de quoi? On parlait du fonctionnement, on parlait... C'est de l'argent, c'est déjà dans la structure même de la récolte des recettes de l'État. Il y a des problèmes. Et ça... Alors, ce qui faisait rire tous les experts, c'est qu'il y a des gens qui croyaient qu'on pouvait atteindre 11 milliards en maintenant la même structure de collecte de recettes, ce qui est impossible à faire.
Merci Mwindo Nzangi. Beaucoup de questions des auditeurs qui nous suivent de partout adressées au ministère des Finances. Malheureusement, nous attendons toujours le délégué du ministère des Finances. Monsieur le ministre des Finances, José Sélé, si vous nous suivez, nous attendons toujours le délégué de votre ministère pour participer à cette émission et répondre aux nombreuses questions des auditeurs. On va prendre pour vous, frère Fabrice Ngabo, cette réaction qui nous vient de Maïgi, dans la province de l'Ituri.
Je suis Joël Adia depuis Mahagi. Le budget attaque la prévision de recettes et de dépenses publiques. L'exercice à court devrait être élaboré sur des bases réalistes et réalisables. Bien que la matérialisation des programmes, il devrait tenir compte des indicateurs économiques et de l'environnement monétaire du pays. Dans le contexte de l'inflation actuelle, couplé de la dégradation du tissu économique dans un contexte sécuritaire fragile, il était quand même ambitieux d'avoir une prévision pareille. Devant l'évidence, le gouvernement devra dorénavant revenir sur les plans d'action d'exercice 2020 traduits dans les budgets pour essayer d'ajuster ces actions. Certaines priorités devront être revues au profit d'autres secteurs les plus vitaux de la vie de la nation.
Fabrice Ngabo.
Je crois que, madame, il faut apaiser l'auditeur. Ce budget, nous devons encore une fois le répéter, il est réalisable. Alors, au niveau des institutions publiques, pourquoi on fouille le débat sur la lutte contre la corruption du système fiscal? Pourquoi on le fouille? J'ai l'impression que ce débat n'intéresse pas les politiques. L'autre fois, ici, dans ce studio, nous avions parlé notamment de l'IPR sur les rémunérations du personnel politique. Est-ce que quand vous allez au ministère du budget, qui est le redevable légal, c'est-à-dire qui retient l'impôt sur les rémunérations du personnel politique, des agents de la fonction publique, ainsi de suite. Est-ce qu'on sait nous dire aujourd'hui quel est le taux qui est appliqué sur les rémunérations du personnel politique? Que ça existe je veux dire, du président de la République, du premier ministre, des ministres, des députés.
On a un député qui va nous répondre.
Députés, oui, ainsi de suite. Il faudrait qu'on nous dise aujourd'hui, comme l'autre fois, madame, la ministre en charge de la fonction publique avait dit que le gouvernement avait collecté 18 milliards de francs congolais sur les primes des agents en cas de la fonction publique. Chose que nous, aujourd'hui, jusque-là, nous disons que ce taux de 15% n'a pas de soubassement légal. On fait référence, quand vous sillonnez toute la loi des finances 2020, vous n'allez pas trouver nulle part où l'on parle du taux de 15%. Ça n'existe pas, c'est de la fiction, ça n'existe pas. Quand vous allez dans la loi 69/009 du 10 février 1969 relative aux impôts célestes sur les revenus, les dispositions auxquelles on a fait adhésion n'ont rien à voir avec ça. Et c'est plutôt une question d'interprétation et qui prête à confusion par rapport à l'article 87 de cette loi. Pendant que l'article 17 de la loi des finances 2020 n'a fait que mettre à jour, ou si vous voulez bien, mettre à jour le barème progressif par tranche prévu à l'article 84 de la loi de 109. Alors, je reviens à cette question. Alors, pour réaliser ce budget, nous disons, il faut effectivement mener une lutte aux azimuts contre la corruption. L'approche, nous disons ceci, l'approche qui a été mise en œuvre, utilisée par le président honoraire, le président de la République honoraire et le régime actuel, qui consiste à sensibiliser la population, à sensibiliser ceux qui détiennent la matière imposable, disons, c'est une approche qui, scientifiquement et fondamentalement, n'est pas adaptée. Il faut plutôt créer, mettre en place un système contraignant et répressif contre les pratiques fiscales illégales. Nous détenons ce modèle et nous sommes disposés à accompagner le gouvernement avec ça. Sans cela, on ne va pas s'en sortir. On va prévoir on va établir des prévisions qui ne seront pas réalisées et on donne l'impression qu'on est assidu, pourtant on ne l'est pas. Et donc nous pensons que le débat qui doit être mené, c'est celui-là.
Débat sur la lutte contre la corruption. Mais Fabrice Ngabo, vous êtes chercheur et consultant en fiscalité et finances. Est-ce que ce plan de trésorerie pourrait avoir des conséquences sur l'exécution du budget 2020?
Bon, en fait, ce plan permet seulement au gouvernement de faire le suivi de l'exécution du budget. Mais les conséquences, effectivement, si le gouvernement ne réalise pas ses budgets, seront perceptibles. On a prévu d'engager un certain nombre de dépenses qui ne le seront pas. Au cours de l'année passée, on n'a pas eu autant de dépenses comme ça pour l'éducation. On a pris la responsabilité d'exécuter la gratuité de l'éducation de base. Le budget par rapport à cette gratuité va au-delà de 2 milliards de dollars. Eh bien, il faut les mobiliser. Alors, si on a commencé à payer les enseignants et que, par exemple, vers la fin de l'année scolaire, on n'arrive pas à, on ne tient pas le pays. Quel sera l'essor de l'année scolaire? Autant pour d'autres secteurs. Et donc nous disons qu'il n'y a pas péril en demeure. Si on rectifie les tirs en ce moment, il est possible de réaliser ce budget. Eh bien, toutes les voies sont disponibles pour accompagner le gouvernement et nous sommes là.
Merci Mindo Zangui. On va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga.
Patrick Mbouni, Kassama de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Nous saluons le pragmatisme du ministre des Finances qui n'a rien à voir avec le pessimisme. Car voter la loi des finances publiques n'est pas un problème. Mais la mobilisation des recettes ou l'exécution de cette loi pose souvent problème, surtout dans notre pays. Et l'expérience du passé démontre clairement que plusieurs fois, les lois des finances ont été votées, mais qui souvent s'exécutaient autour de 50 à 60%. Et il n'y avait personne pour donner des justifications valables par rapport à ces contre-performances, ni même la Cour des comptes. Et les conséquences de cette situation étaient grandes dans presque tous les secteurs de la vie nationale. Et l'actuel ministre des Finances, étant tout simplement prudent et connaissant très bien tous les rouages du trésor public, il ne veut tout simplement pas tomber dans les erreurs du passé. Et à mon avis, il n'est pas contre la politique du chef de l'État, il est juste réaliste.
Il vous rejoint un peu dans votre analyse de tout à l'heure, hein,
c'est tout disant. Oui, il est réaliste, mais tout ce que nous disons, c'est que nous regrettons effectivement que ce gouvernement a voté, a présenté à l'Assemblée nationale un budget tambour bata. On a attelé 10 milliards, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, ils se rendent compte effectivement que c'était des chimères. Ils ont dit des choses qu'ils ne peuvent pas réaliser. Alors que ces choses sont réalisables. Je le dis bien, ces choses sont réalisables. Je voudrais d'ailleurs ajouter.
Puisque ces choses sont réalisables, pourquoi vous pensez que le gouvernement ne peut pas les réaliser?
Le problème, c'est qu'effectivement, les gens ont cru qu'il y avait un changement. On a cru qu'il y avait changement, c'est que d'ailleurs nous chez la Mouka on regrette que les Congolais qui ont voté massivement pour les changements ne l'obtiennent pas et finalement ils se rendent compte que ce changement-là ne sera jamais obtenu dans les cas d'espèce, puisqu'effectivement les mêmes méthodes, les mêmes pratiques continuent, c'est la même chose, c'est la continuité, c'est tout simplement la continuité et dans ces régimes de continuité on ne peut pas obtenir des résultats alors que les résultats sont à portée de main. On ne peut pas les obtenir puisqu'effectivement on continue à faire comme les autres. D'ailleurs, ce que je voudrais souligner à ce stade ici, ils avaient besoin d'avoir de l'argent. Et ils nous ont ramené un budget avec des mesures d'application additionnelles. C'est là où je voudrais répondre à celui qui est à côté de moi.
À Fabrice Ngabo.
Alors, en fait, cette question de l'hyper à 15%, elle est entrée dans les budgets. Le gouvernement a prévu, c'est d'ailleurs c'est l'article 37 de cette loi de finances où ils ont prévu dans les mesures additionnelles que désormais tous les personnels publics ou privés qui touchent plus de 200 dollars, de l'équivalent de 200 dollars américains, on devrait retenir 15%. J'ai même fait un amendement à cet article-là disant que voilà. Déjà, 200 dollars, vous ne savez pas vivre dans ce pays. Comment on va vous retracher 15% alors que vous êtes à dessein de l'équilibre de vie normal pour quelqu'un qui vit dans une ville comme Kinshasa? Bon, le texte est passé comme ça et c'est celui-là, effectivement, qui devrait s'appliquer. Je ne sais pas s'il est en train de s'appliquer. On pourra y revenir en mars puisque la Commission économique et financière de contrôle budgétaire pourra, pour la première fois, faire un contrôle budgétaire. C'est déjà acté. La deuxième chose qui a été posé effectivement par l'expert pour l'hyper pour les députés, effectivement, nous payons l'hyper. Je voudrais que pour la prochaine émission, je vienne, nous avons demandé expressément au ministre du budget d'établir des fiches de paye pour qu'effectivement l'opinion soit informée que les députés payent l'hyper. Donc nous payons. À partir du mandat passé, il a été institué une retenue systématique sur les députés et donc nous payons.
Le taux est de combien?
Oh papa, je voudrais vous dire que
maman.
Nous payons. Ah, je parle de papa qui est à côté de moi qui s'appelle Patrick Ngabou. En tout cas, nous payons l'hyper.
Le taux est de combien? Comme je n'ai pas pu consulter,
je sais que pour le budget qui arrive, on nous a soumis à 30% pour l'hyper pour les députés sur les émoluments, ce qu'on appelle les traitements de base. Voilà ce que je connais, ce que je peux vous dire à ce stade ici.
Alors on va prendre
prochainement, donc je vais vous amener les documents. Mais je voudrais vous dire que nous payons la taxe.
On va prendre une dernière réaction pour vous, Fabrice Ngabo, qui nous vient de Kisangani, non plutôt d'Isangi.
Je m'appelle Jean-Kibéfou Malomalo depuis Isangi, province de la Tchop. On peut décrier le plan de la trésorerie publié par le ministre des Finances, mais ce dernier a fait un constat objectif et réel de budget en exercice. Depuis qu'il a été voté, ce budget estimé à 10 milliards de dollars américains ne bénéficie pas d'un engagement sérieux de la part des gouvernants pour mobiliser les recettes prévues. Rarement, on voit les ministres inspecter ou descendre sur terrain pour inciter leurs services au travail. La plupart d'entre eux aiment toujours le bureau. Cher et excellent ministre, je ne vois comment vous allez atteindre le seuil si pas la totalité des budgets que vous nous aviez présentés en âme et conscience. Avec cette allure, ce n'est pas la quantité de votre équipe gouvernementale qui compte pour mobiliser ces fonds, mais le sérieux et la qualité de votre travail ainsi que la volonté qu'il faut.
Alors la plupart des auditeurs reviennent hein, sur la même observation, capacité du sérieux, le sérieux dans le travail, capacité à mobiliser les recettes, Fabrice Ngabo.
Madame, l'auditeur, la crainte de l'auditeur, elle est tout à fait légitime. La République, c'est une affaire qui concerne tous les Congolais. Alors, nous avions dit ceci. Les budgets de 11 milliards, vous les avez prévus, vous devez les réaliser. Et maintenant là, il n'est pas question d'aller de gauche à droite. Il faut les réaliser. Et pour les réaliser, ce n'est pas compliqué, madame. Ce n'est pas compliqué. C'est question d'abord de volonté. On veut réellement réaliser ces budgets, oui ou non? Quelles sont les volontés? Si c'est oui, effectivement, procéder aux réformes, madame. Comment vous imaginez que l'on part, que le gouvernement part d'un budget réalisé de 5 milliards vers un budget de 11 milliards sans que rien ne change? C'est pas quand même de la prophétie, hein. C'est une matière éminemment technique. Vous voulez passer d'un budget de 5 milliards vers un budget de 11 milliards, il faut montrer techniquement comment la capacité de mobilisation va changer pour aller vers ces objectifs-là. Quels sont les moyens qui sont mis en œuvre pour atteindre ces objectifs-là? Quelle est la stratégie qui sera développée pour atteindre cet objectif-là? Madame, quand le chef de l'État il a accédé au pouvoir, le premier appel c'était d'inviter le peuple à lutter contre la corruption. Et ce n'est pas pour rien qu'il a dit ça, parce que tout le monde convient que c'est là que l'essentiel des ressources de l'État passe. Il faut absolument boucher ces trous-là. Et pour boucher ces trous, il ne faut pas quand même se perpétuer dans cette stratégie de mise en œuvre par l'OCEP, mise en œuvre par une structure qui a été créée au niveau de la présidence pour les changements des mentalités. Madame, nous avons dit ceci. La structure, la matière fiscale, elle est éminemment technique et financière. Il s'agit des agents qui sont rationnels. Une entreprise a comme objectif de maximiser les bénéfices. Et pour maximiser les bénéfices, il faut minimiser les charges. La fiscalité faisant partie des charges, si le système fiscal, il est poreux, il présente des opportunités de tricher sans qu'on soit décelé, eh bien, ça devient là un avantage pour les entreprises. Et c'est ça l'environnement dans lequel nous sommes. Maintenant, nous disons ceci. Il faut absolument changer de stratégie. La stratégie passe absolument par l'insertion dans le système fiscal des mécanismes contraignants et répressifs. Et nous martelons, nous disons, il n'y a que par cette voie-là que le président de la République peut réussir ce mandat, parce que il n'y a pas de politique qu'on peut mettre en œuvre sans moyens.
Alors, si le chef de l'État, il peut... Vous allez réagir à ce point de vue de cet auditeur, Samuel Michumbi, qui dit ceci. À mon avis, c'est pas la mobilisation qui fait échec, mais plutôt l'encadrement des recettes. Il faut un système de guichet unique électronique dans chaque province et que les gens cessent de payer entre les mains des agents de l'État sans contrepartie. Ça serait une solution?
Bon, c'est une des solutions, mais pas considérable. Madame, la solution passe par d'abord l'audit des répertoires des régies financières. On doit savoir si toutes les entreprises situées sur le territoire national, répertoriées par l'administration fiscale, effectivement, l'argent qu'ils paient entre dans la caisse de l'État. Cet élément nous amène à montrer que les ressources, on ne peut pas les chercher ailleurs. Les pays vers lesquels le chef de l'État va chercher autant de millions de dollars, pensez-vous que ces pays, qui ne sont même pas aussi riches que nous, trouvent leurs ressources ailleurs? Ils trouvent leurs ressources à travers leur fiscalité. Il n'y a que là que l'essentiel des recettes, on en trouve. Alors, l'une des conséquences sera aussi de faire pression aux maigres réserves de la banque centrale. Voyez-vous, madame? Et donc, on va exercer pression à ce niveau-là et nous allons aller, la situation va aller de mal en pire. On ne va pas s'en sortir. La véritable question consiste à lutter contre ce que nous appelons pratiques fiscales illégales. On ne peut y arriver que par ce mécanisme-là. Et nous pensons que si les chefs de l'État, on ne lui a jamais donné le moindre détail sur cette approche-là, eh bien, il est temps qu'on les fasse pour que le pays aille de l'avant.
Voilà, nous tendons vers la fin de cette émission sans un délégué du ministère des Finances. C'est quand même dommage parce qu'on a eu beaucoup, beaucoup de questions adressées au ministère des Finances. Malheureusement, voilà, personne n'est là pour répondre aux questions des auditeurs. Honorable Mouindo Nzangui, nous sommes à la fin de notre émission. Votre mot de conclusion, est-ce que finalement les recettes prévues dans le budget 2020 peuvent être atteintes?
Non, je crois que le gouvernement actuel ne l'atteindra pas. Déjà, l'expert qui est ici parle de la lutte contre la corruption. Je crois que la bataille de la lutte contre la corruption, déjà le gouvernement actuel, le nouveau président, c'est une bataille perdue pour eux. Déjà, quand vous avez des affaires comme 15 millions, quand vous avez des affaires comme la gestion calamiteuse des programmes de 100 jours ici, avec tout ce qu'il y a comme conséquence, c'est déjà mal parti. Et les exemples de corruption sont légion. Aujourd'hui, nous plairons à Béni. Parce qu'effectivement, les militaires mal motivés, l'argent est sorti, il n'y a pas d'argent de motivation. Tout ça, lorsque la corruption gangrène le système est déjà foutu. Et on ne peut plus rien faire de bon. Je crois que les changements que le peuple congolais espérait avoir, il ne l'a pas obtenu. Le peuple doit encore lutter pour avoir le changement. Il n'y a que la question, ce n'est même pas le changement. C'est une question d'homme. Il faut quelqu'un qui viennent imposer ici une ligne de conduite. Et je déplore d'abord le fait qu'aujourd'hui, ils ont haussé pratiquement les taux de douane de tous les produits, avec comme conséquence que tous les produits nécessités aujourd'hui, les prix ont flambé. Malheureusement, même en augmentant cela, ils ne peuvent pas atteindre les objectifs des budgets de 10 milliards, ce qui est très honteux.
Merci, honorable Mouindo Nzangui. Fabrice Ngabo, votre conclusion.
Madame, la situation sociale de la population, elle est préoccupante. Pour que l'État y apporte un changement, il faut qu'il change absolument des stratégies pour la mobilisation de recettes. Et nous pensons que c'est le lieu de dire que absolument on doit passer par l'insertion de ce mécanisme, la mise en œuvre de ces réformes-là pour réaliser ces budgets-là. Sans quoi, on ne s'en sort pas. Madame, on va se retrouver ici au cours de l'exercice prochain pour évaluer l'exécution de ce budget. Vous me le direz, madame. Le budget sera réalisé autour de 6-7 milliards et ce sera malheureusement une lutte perdue.
Merci.
Si on n'a pas mis en œuvre les réformes fiscales.
Merci.
Notamment celles que nous avons proposées.
Fabrice Ngabo, c'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais qui était à la réalisation. Jean-Noël Mokondo à la prise des sons. Dona Madimba qui était au desk, voilà, supervision Axel Goncho, présentation et coordination Kéline Kouté. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet www.radioocapi.net, pour une suite de programmes sur la fréquence de la paix.